Alors, je peux peut-être commencer par un commentaire de Saint Jean-Paul II, le 10 septembre 2001. Il se fait référer à une citation du Siracide du dimanche 2 septembre 2001. Mon fils, conduis tes affaires avec douceur et tu seras plus aimé qu'un homme munificent. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser pour trouver grâce devant le Seigneur. Et Jean-Paul II commentait, il s'agit d'une parole qui va clairement à contre-courant. En effet, la mentalité du monde incite à se mettre en avant, à tracer son chemin entre la ruse et l'absence de scrupules pour s'affirmer soi-même et défendre ses intérêts. Dans le royaume de Dieu, la modestie et l'humilité sont récompensées. En revanche, dans les affaires terrestres, ce sont souvent l'arrivisme et l'abus de pouvoir qui ont le dessus. Les conséquences se trouvent sous les yeux de tous, rivalité, injustice, frustration. Voilà, alors, c'est vrai que bon, c'est dans la culture quand même, c'est quand même plutôt violent, globalement, notre culture. Ça pas... C'est pas forcément une nouveauté complètement, mais il y a peut-être aussi une forme de... Là, c'est juste l'introduction. Hein. Ça peut être quelquefois justifié aussi au niveau intellectuel, au niveau des penseurs. Alors, vous pensez à Nietzsche, à Marx, par exemple. L'évangile, il ne va pas du tout dans le sens de la lutte des classes. Alors, clairement, Marx soulignait aussi des choses qui n'allaient pas bien, ça c'est vrai, mais l'Évangile n'encourage pas la lutte des classes. Hein, ça, c'est pas Jésus, c'est pas son problème. Nietzsche aussi, alors qui partage pas la vision de Jésus, qui plutôt que de faire des victimes, se sacrifie lui-même. Alors ça va pas du tout dans la pensée de Nietzsche. Enfin, je vais pas tout... On voit, hein, pour Nietzsche, c'est l'homme fort, etc. Voilà. Donc, ce que je veux dire, simplement, bon, on respire ça, quand même, une certaine tension, etc. Mais aussi, après, il y a derrière ça, il y a aussi des systèmes de pensée qui nous encouragent, quelquefois, justement, ou qui nous découragent à vivre la douceur. Et, bon, et puis après, simplement nous, hein. Sans aller chercher des justifications à l'extérieur de nous, ben, je crois que tous, on a lutté pour être plutôt dans la douceur. Hein. Alors, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, mais voilà. Alors, donc, je vais essayer de faire 5 parties. Ça va, pour l'instant, j'ai essayé de mettre des numéros comme ça. Hein. La première, c'est... Alors, vous vous rappelez la dernière fois pour les béatitudes, hein, la première chose que j'ai essayé de dire, c'est que les béatitudes se comprennent parce qu'il y a une récompense. Hein, c'est pas heureux les pauvres, point. C'est heureux les pauvres parce que le royaume des cieux est heureux les doux, car ils posséderont la terre. Donc il y a vraiment une récompense. Et je pense qu'encore une fois, les béatitudes sont incompréhensibles si on prend juste la heureux les doux, c'est pas uniquement ça. Par exemple, il y a Gandhi qui disait que c'était très beau, qu'à la limite, même si Jésus n'avait pas existé, ça serait très bien. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord, je ne suis même vraiment pas d'accord, parce que c'est aussi la récompense qui nous donne de pouvoir vivre, et c'est aussi Jésus, l'exemple de Jésus doux et humble de cœur, qui nous aide à vivre les béatitudes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on les vit bien, mais bon. Voilà, donc ça c'est... Alors, mes 5 points, la récompense, ils posséderont la terre. Le deuxième point, ça serait les contrefaçons de la douceur. Le troisième point, les contrefaçons. Le troisième, les contraires. La quatrième, quelques facettes de la douceur. Et cinquièmement, ce qui peut nous aider à progresser dans la douceur. Voilà. Donc la récompense. Alors, la promesse, ils posséderont la terre, ça peut se réaliser à différents niveaux. Déjà, à un niveau simplement humain, après, ça va plus loin que ça, mais où la terre, ça représente le cœur des hommes. Quand on est doux, on gagne davantage la confiance. C'est saint François de Sales. Si vous voulez un exemple de douceur, il y a notamment saint François de Sales, qui avait un tempérament un peu passionné, mais qui a travaillé, et puis qui... Voilà, c'était pas quelqu'un d'amorphe, et puis voilà, il réagissait pas quand on le taquinait. C'est pas du tout ça, Saint-François de Sales. Mais, alors, il y a un livre avec les Fioretti de Saint-François de Sales, et là, je l'ai pas retrouvé, là, mais sinon, il y a des beaux exemples de Saint-François de Sales. Et voilà ce que disait Saint-François de Sales. Les Fioretti. Souvenez-vous que l'on prend davantage de mouches avec une goutte de miel qu'avec un baril de vinaigre. Donc, la douceur, voilà, ils posséderont la terre. Je pense que la douceur aussi, vous le voyez bien dans votre famille, c'est payant la douceur. C'est pas forcément facile, c'est une vraie douceur qui. Mais ça, elle contribue à l'unité. Alors il disait à une supérieure religieuse, je vous recommande surtout l'esprit de douceur, qui est celui qui ravit les cœurs et gagne les âmes. Saint François de Sales, dans son apostolat, c'était toujours important cette question de la douceur. Je repense, il y a des jeunes qui sont venus à Assise l'été dernier, et donc il y a eu un week-end retour ici à la Toussaint, après la Toussaint. Il y en a un qui m'a écrit une petite lettre, et je trouvais que sa petite lettre était très, très intéressante, parce qu'il disait, bon... Je n'étais pas un pilier d'église, alors j'avais un peu peur, un peu comment ça allait se passer et tout ça, parce qu'on annonçait qu'il y avait la messe tous les jours, etc. Et puis finalement, le fait de ne pas se sentir jugé, de sentir beaucoup de bienveillance à son égard, de sentir qu'on ne le forçait pas à faire les choses, ben finalement il s'est ouvert. Et finalement, voilà, il est parvenu pareil qu'il était parti à Assise. Mais c'est... Si on l'avait fait le forcing, je crois que ça aurait fait le contraire, comme quand on pousse une porte qui a un groom, mais elle nous revient dans la figure. Et voilà, alors ça donne une image un peu de la douceur. Et je pense que saint François de Sales, c'est vraiment un maître dans cet art de s'y prendre avec les gens. Alors, le Père Lamy nous en parle aussi. Alors, voilà ce que nous dit le Père Lamy, notre fondateur. Allez à votre but fortement et par des voies pleines de suavité et de douceur. Vous gagnerez les cœurs et les volontés et vous les gouvernerez avec grand fruit pour la gloire de Dieu. Alors après, il montre que ça suppose aussi de travailler sur soi. N'oubliez pas que pour y réussir, vous devez vous dépouiller de toute attache particulièrement à votre volonté, à vos idées, à quelque créature que ce soit, et vous revêtir de l'esprit de Jésus-Christ. Voilà, Jésus qui a offert sa vie sur la croix. Voilà. Ou encore, je vous cite encore le Père Lamy. Voilà le secret de la puissance des saints auprès des âmes qui ne résistent pas à l'appel de Dieu par notre moyen. Le cœur rempli d'amour de Dieu, ils en déversent le trop-plein dans les âmes avec humilité et tant de douceur que l'orgueil est vaincu. Tous, on a un peu d'amour propre. Alors, si on nous pique dans notre amour propre, on réagit, etc. Mais si on s'y prend par la douceur, Ben voilà, on a un peu plus de chance d'arriver à ses fins. Où le pape François, il revient assez souvent, par exemple le 6 mars 2019. Dieu est plein de patience, ce n'est pas par la violence qu'il instaurera son règne en ce monde. Sa façon de le propager, c'est la douceur. Et le père André, je ne sais pas si certains l'ont connu ici, le père André a été supérieur de la communauté pendant 30 ans ici. On a prié devant sa tombe d'ailleurs, derrière la chapelle, là tout à l'heure. Et il commentait le père Lamy. Et il faisait cette réflexion que, je vous le cite, « Quand une personne est agressive, c'est qu'elle ne croit plus assez à l'amour des autres. C'est quelqu'un de fragile, de blessé, de sensible qu'il faut aider. On le fait très naturellement pour les blessures physiques. On prend beaucoup de précautions avec un accident. On le fait très difficilement avec les blessures morales. » Voilà, du coup de dire, voilà, quelqu'un qui est blessé, qui est peut-être à vif, mais c'est une raison supplémentaire pour faire preuve de douceur à son égard. Vous voulez une petite histoire de la vie du père Lamy? Le père Lamy, donc, cette histoire se place au moment où il était vicaire à Saint-Ouen, donc juste avant 1900. Et un jour, il marche dans une flaque d'eau. Et sa chaussure reste dans la flaque. Alors, il récupère sa chaussure, et puis il y avait une cabane là qui... Et, je sais pas, ça ne le gêne pas trop d'entrer dans la cabane, il y avait quelqu'un dedans, mais voilà... Et alors il y a des chiens qui aboient, il y a un monsieur dans son lit, etc. Et puis, alors du coup, le monsieur l'injurie et tous les. Et puis lui, tranquillement, il remet son soulier, il remet ses lacets, tout ça, et puis il s'en va. Et puis, quelques temps après, il y a une dame qui arrive au presbytère qui dit. Ah, je viens voir le vieux vicaire, c'est mon mari qui le demande. Mon mari l'a mal reçu. Alors, c'est votre mari? Oh, nous faisons tout comme. Hein, bien sûr, nous sommes mariés sans être mariés. Voilà. Alors, le vieux vicaire, c'est moi. Alors, il se présente à la dame. Et puis, en fait, il dit, mais en fait, il a été touché de la façon dont vous avez agi avec lui. Et alors, en fait, cet homme, c'était le président de la libre pensée de la place Clichy. Et donc, il était à sa 11e femme, je crois. Voilà. Et donc, il l'a fait appeler pour se confesser, etc. Mais c'est juste, heureux les doux, quand ils posséderont la terre. Quelque part, c'est par sa douceur qu'il a gagné le cœur de cet homme. Aussi plus que s'il lui avait fait un sermon, ça n'aurait pas marché, quoi. Mais là, voilà. Et alors, il continue. Donc, la femme ne voulait pas sortir. Non, ce n'est pas la peine. Je sais, c'est péché mieux que lui. Bon, finalement, elle est sortie. Une fois dehors, elle regardait par la fenêtre. Ce pauvre homme n'a d'abord pas voulu recevoir le Saint-Sacrement par respect, sans jugeant indigne. Ressentant toute l'indignité de sa vie passée, il a refusé jusqu'au bout de communier par un sentiment extrême de contrition. Alors, c'est assez beau de voir le cheminement de cet homme, justement, mais au point de départ, c'est cette douceur. Je vous cite encore le pape François, c'est dans Evangelii Gaudium, c'est son premier document sur l'évangélisation. Ce qu'il dit, dans notre relation avec le monde, nous sommes invités à rendre compte de notre espérance, mais non pas comme des ennemis qui montrent du doigt et condamnent. Nous sommes prévenus de manière très évidente, que ce soit avec douceur et respect. C'est une citation de Saint-Pierre. Voilà. Et en paix avec tous, si possible, autant qu'il dépend de vous. Il y a une citation que j'aime bien, que je cite souvent. je reprends souvent, c'est les Proverbes 16-32, vous connaissez? Non? Mieux vaut un homme patient qu'un héros, un homme maître de toi qu'un maître de soi qu'un preneur de ville. Voilà. Cette douceur aussi liée à la patience, voilà, on y reviendra. Voilà. Ça, c'était juste pour le premier point, c'est car ils posséderont la terre, la douceur a une force particulière.
La récompense.
Oui, la récompense, exactement. Ils posséderont la terre. Deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est les contrefaçons de la douceur. Parce que la douceur, Jésus n'a pas dit « heureux les mous », il a dit « heureux les doux ». Hein, donc, une première contrefaçon de la douceur, ce serait la mollesse. Une fausse tolérance, une forme de relativisme, de laisser aller. Dans la douceur, il y a une ténacité, hein, une persévérance. On est opiniâtre. La douceur n'exclut pas la correction fraternelle. Hein, donc, la douceur n'est pas la mollesse. Je pense que c'est vraiment important de toujours sans. D'ailleurs, on voit des gens qui ne disent rien par devant, mais par derrière, ils s'en privent pas. Ça, c'est pas la douceur. C'est le contraire d'une vraie douceur. Ainsi. Le pape François, j'y viendrai un peu plus loin, il parle de la courtoisie, mais ce n'est pas la courtoisie des, entre guillemets, des fauchetons, des lâches, où voilà, on n'ose pas dire voilà, les choses. Hein, la douceur, voilà, ce n'est pas la mollesse. La douceur, ce n'est pas non plus le manque de force. Être doux, ce n'est pas s'écraser. Je ne suis pas doux parce que je n'ai pas la force de réagir, je n'ai pas le courage de réagir. Hein, la douceur, ce n'est pas un manque de caractère. François de Sales avait du caractère. Souvent, quand on dit que quelqu'un a du caractère, c'est plutôt, on veut dire qu'il a un mauvais caractère, plutôt que... Non, il faut avoir du caractère, après on est comme on est, mais voilà, la douceur, c'est pas un manque de force. D'ailleurs, vous le voyez dans différents passages, déjà dans la... Avec Moïse, l'homme le plus humble que la terre ait porté, hein, c'est la parole de Dieu qui dit. Alors le doux Moïse, hein, à certains moments, il y va. Hein. Quand les gens, après l'épisode du veau d'or, mais notre doux Jésus aussi, à certains moments, quand il chasse les vendeurs du temple, quand il a guéri l'homme à la main desséchée, hein, Jésus a promené sur les pharisiens un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur. Donc, ce n'est pas une mièvrerie, hein, cette douceur. Hein. Je pense que c'est important, ce serait une contrefaçon de la douceur. Bon, il y a des choses que ça sera peut-être un peu mélangé, mais bon, j'y reviendrai. Toc. Le pape François, dans un dialogue qu'il a eu avec les jésuites lors de sa visite en Roumanie, c'était fin mai, début juin de cette année. Donc, les jésuites leur demandaient un peu comment réagir dans certaines situations un peu compliquées. Est-ce qu'il fallait être un peu plus ferme ou... Voilà, monter au créneau, pas monter au créneau, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et le pape François leur a dit « Aujourd'hui, c'est plus le temps de Favre que de Canisius. » Alors, c'est deux saints canonisés. Il y en a un, Favre, c'est d'ailleurs le pape François qui l'a canonisé. Le Favre, c'était un des premiers compagnons de saint Ignace. Alors, lui, c'était l'homme de la conciliation, hein. Sitôt qu'il y avait un endroit où ça se disputait, on l'envoyait pour que... Voilà, donc c'était... Saint Pierre Canisius, et c'est quelqu'un aussi qui... Il était très attaché à la doctrine, et du coup, il était plus dans une forme de... Voilà, de discuter avec les autres. Hein. Il lâchait pas tout de suite le bout de gras. Hein. Voilà, alors, le pape François disait, aujourd'hui, peut-être, il faut plutôt être dans le sens de Pierre Favre que de Pierre Canisius. Voilà. Une proximité douce. Voilà. Ça, c'est les. Je voulais évoquer ces contrefaçons où c'est une mollesse, etc. La douceur n'est pas la mollesse, n'est pas un manque de caractère, un manque de force. C'est voilà. Maintenant, les contraires de la douceur. Alors, j'en ai retenu trois. Mais, enfin, c'est juste pour mettre des chiffres. J'ai pensé aux premières choses, l'agressivité. Alors, après, je vous parlerai un peu de la dureté, brutalité, de la rigidité, et puis après de la colère. Elles se rejoignent, mais en même temps, elles sont un peu différentes. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand vous retirez sa gamelle à un chien qui est en train de manger? Il ne va pas être très content. Avec nous, c'est un peu la même chose. D'une manière ou d'une autre, quand on touche à un de nos besoins importants, on devient vite agressif. Alors, je vais vous citer quelques besoins qu'on a tous. Plus ou moins, alors il y en a auxquels on est plus ou moins attaché selon notre personnalité. Mais c'est important aussi de repérer ça pour voir, parce que si on veut travailler sur la douceur, peut-être qu'il faut travailler aussi sur des frustrations, consentir davantage à certaines frustrations. Donc c'est plus facile si on met le doigt, ça quand on touche ce point-là, toc, action-réaction, tout de suite, ça... Alors, voilà quelques lieux où on peut réagir, où on peut devenir agressif. Par exemple, le besoin d'un territoire, de son espace vital, de son intimité. Quelqu'un qui entre dans notre intimité, c'est tout de suite, on peut devenir un peu agressif. Je ne vais pas tous les prendre, mais le fait de se sentir un peu méprisé, pas assez considéré, un peu. Alors tout de suite, de fait, on voit que l'humiliation, c'est un lieu de violence particulier quand on se sent humilié. On le voit au niveau d'un pays où... Alors, quelquefois c'est objectif, quelquefois il y a une part de subjectivité, on peut se sentir humilié sans que l'autre ait voulu nous humilier aussi. Bon, les choses ne sont pas toujours si claires que ça, mais en même temps, quand on se sent humilié, ça clairement que c'est... On peut réagir de façon très agressive. Quand on se sent en insécurité, là aussi, quand on est... Il y a des chiens, ils mordent, mais parce qu'ils ont peur. Ils ne mordent pas pour plaisir de mordre, pour goûter votre chair. Mais simplement, c'est pour plus une défense, quelque part. Et nous aussi, quelquefois, on est agressif plus pour se défendre. Ou un autre lieu, peut-être, c'est le stress. Alors là, je sais ce que c'est. Quand on est trop stressé, on devient vite agressif. Parce qu'on est trop bousculé, etc. Et puis, on n'arrive plus à gérer les choses. Quand on n'a pas notre confort, ou quand on viole notre propriété, ce qui est à nous, etc. Enfin, bon, je ne vais pas prendre tous les besoins, mais il y a un certain nombre de besoins. Et si on touche à ces besoins qui sont importants pour nous, on devient vite agressif. Alors, c'est saint Paul qui a invité les Romains à ne rendre à personne le mal pour le mal. Du coup, notre voie aussi, et heureux les doux, c'est d'apprendre à comment vivre ces frustrations. Comment vivre ces frustrations sans qu'on ait une réaction complètement disproportionnée. Et c'est, le pape François développe la douceur à deux reprises dans sa lettre sur la sainteté. Alors, à un moment, il commente les béatitudes, bien sûr, il commente la béatitude de la douceur. Mais après, un peu plus loin dans sa lettre, il nous donne des lieux de sainteté particuliers pour notre monde d'aujourd'hui. Et il y en a un, c'est la douceur dans ce monde. Des points particuliers où on doit exercer la sainteté. On doit s'exercer. Voilà. Donc ça, c'était l'agressivité. Après, je pensais à la dureté, la brutalité, la rigidité. Les choses se recoupent un petit peu, hein, et il me semble que là, il y a des causes un peu différentes. C'est pas forcément des frustrations, mais ça peut être notre orgueil. Du coup, on considère pas assez les autres. Et du coup, on peut être assez dur avec les autres parce qu'on ne les prend pas assez en considération. Voilà ce que dit le pape François dans sa lettre sur la sainteté au numéro 114. Il nous faut lutter et être attentifs face à nos propres penchants agressifs et égocentriques pour ne pas permettre qu'ils s'enracinent. Ou au numéro 121 encore, une attitude de douceur suppose un cœur pacifié par le Christ, libéré de cette agressivité qui jaillit d'un ego démesuré. La dureté, elle peut venir de notre ego démesuré, mais elle peut venir aussi de notre orgueil, mais elle peut venir aussi d'une forme d'activisme. Quand le rythme est trop élevé dans notre vie, ben on a tendance à sacrifier un peu les personnes autour de nous. Je n'ai pas mis la citation, mais je crois que c'était le 20 août 2006. Benoît XVI avait fait à l'occasion de l'Angélus, hein, vous savez que tous les dimanches, à l'occasion de l'Angélus, souvent il commente un petit peu le passage d'évangile du jour, où là, comme c'était le 20 août, il parlait un peu de Saint-Bernard. Et de Saint-Bernard, donc moine cistercien qui a fondé Ourscant, Saint-Bernard a... Il y avait un de ces moines qui était le pape Eugène, qui était un cistercien. Donc, comme il avait été son père abbé avant, il se permet de lui écrire un petit opuscule pour comment il pourrait bien se comporter comme pape, pour faire simple. Et il dit, mais attention à ne pas avoir trop de choses à faire. Sinon, quand on a trop de choses à faire, on s'endurcit. On devient dur. Et je crois que moi, ça me parle beaucoup, cette dureté qui est opposée à la douceur. Quelquefois, ce n'est pas parce qu'on a un mauvais cœur, c'est simplement que notre emploi du temps est tellement rempli que du coup, on ne réagit pas forcément bien et petit à petit, notre cœur s'endurcit. Autre cause, peut-être, pour cette dureté ou cette brutalité ou cette rigidité, c'est quelquefois une certaine peur du risque ou une certaine peur de... Donc on réagit d'une manière un peu rigide et bureaucratique. Le pape François y revient souvent. Alors, je vous cite Evangelii Gaudium au numéro 63. Il faut reconnaître que si une partie des personnes baptisées ne fait pas l'expérience de sa propre appartenance à l'Église, Cela est peut-être dû aussi à certaines structures et à un climat peu accueillant dans quelques-unes de nos paroisses et communautés, ou à une attitude bureaucratique pour répondre aux problèmes simples ou complexes de la vie de nos peuples. En beaucoup d'endroits, il y a une prédominance de l'aspect administratif sur l'aspect pastoral. Voilà. Alors, c'est un défi, hein, mais devant des choses qui sont difficiles, on peut avoir tendance à se protéger un petit peu parce qu'on ne sait pas comment gérer la chose. Et puis, bon, donc, et du coup, à manquer finalement de douceur. Le Père Lamy a encore une belle phrase à ce sujet-là, hein, parce que je crois que c'est un thème qui lui tenait à cœur. Voilà ce qu'il dit. Gardons-nous de ne rien ajouter à la croix que Dieu envoie aux âmes. Chacune est assez lourde, elle a son poids bien mesuré. Il ne faut pas y mettre une once de plus. Il ne faut pas envoyer les âmes à la boucherie. Ça, il le faisait en référence à ceux qui réagissaient de manière un peu trop brutale. Voilà. Donc, voilà. Donc, dans les contraintes de la douceur, donc j'ai noté l'agressivité, la dureté, la brutalité, la rigidité, et puis, troisièmement, la colère.
Ça, c'est dans le même chapitre.
Oui, c'est dans le même chapitre, les contraires de la douceur, donc la colère. Alors, qu'est-ce que c'est que la sainte colère ? Hein, on parle de sainte colère, est-ce qu'il y a des saintes colères ? Alors, les saintes colères, ou saintes, en tout cas justes colères. Ce qui est saint Thomas d'Aquin, alors je me réfère à quelqu'un quand même d'intelligent, dit qu'il y a trois conditions pour une juste colère. Alors, ça vous intéresse ou... Trois conditions pour une juste colère. D'abord, un objet juste. Quelquefois, il y a des choses qui nous énervent, mais il n'y a pas eu d'injustice. Je ne sais pas, mon équipe de foot préférée a perdu. Le match était normal et tout. De fait, ils ont perdu. Je suis en colère, mais... C'est pas justifié. Enfin, ça me plaît pas, ça c'est vrai. J'aurais bien aimé qu'il gagne. Mais voilà, je passe mon permis de conduire, je rate, je suis en colère. J'ai grillé le stop. C'est pas injuste. C'est normal qu'il m'ait pas donné le permis de conduire. Donc c'est parfaitement juste. Bon, je suis peut-être en colère contre moi-même. J'ai dit, quel imbécile, j'aurais pas dû griller. Voilà, mais cette colère n'est pas voilà. Donc il faut que ça soit juste, que l'objet soit juste. Après, il faut que l'intention soit droite. C'est pas pour se venger ou etc. Est-ce que je désire le bien dans ou est-ce que voilà, c'est pas très très clair quand même dans ma manière de me mettre en colère. Il y a des choses, je veux un peu me venger, etc. Voilà. Donc, il faut une intention droite, hein, de désirer vraiment le bien et pas... Voilà. Et puis, troisième chose, qu'elle soit proportionnée, hein, que la réaction soit mesurée. La proportion, c'est un autre élément important. Le chien du voisin vient faire ses besoins sur ma pelouse. Je sors le fusil et je descends le voisin. Ben, c'était juste dans le sens où c'était pas bien que son chien vienne sur moi. Mais c'est quand même légèrement disproportionné. Voilà. Mais quand on regarde le monde actuel, je pense il y a quelques mois, il y a des gens qui ont pris la place de parking de quelqu'un. Mais ils l'ont tué. Ils l'ont, ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'il soit mort. Ben, pour une place de parking, c'est quand même, on peut dire, largement disproportionné. Bon, qu'il soit en colère, c'est normal. Mais après, c'était quand même... Mais dans le monde, hélas, on voit qu'il y a beaucoup de choses complètement disproportionnées. Tiens, tu m'as regardé de travers, prof, et puis voilà. Bon. Alors, donc, il y a une colère qui peut être juste. Hein, on voit la colère de Jésus était juste. Et voilà. Alors, nous, c'est difficile d'avoir les trois en même temps. Voilà, mais... Ce qui est toujours intéressant d'avoir bien à l'esprit, c'est que la colère en soi, c'est un sentiment qui n'est ni bon ni mauvais. C'est un sentiment. En soi, la colère, c'est une réaction face... le bon Dieu ne nous appelle pas à ne pas avoir de sentiment de colère. Après, avoir une colère... Vous voyez le passage entre le sentiment de colère... Voilà, ça m'énerve. Et puis après, j'ouvre les vannes. Et puis là, tous les dégâts que... Voilà, le sentiment en lui-même n'est pas mauvais. Ça me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que je me sens agressé. Donc le sentiment n'est pas mauvais. On est normalement constitué. Si on n'avait pas de sentiment de colère, ça serait plutôt inquiétant d'une certaine manière. On pourrait faire tout ce qu'on veut à nos enfants, je ne réagis pas parce que... Ben non, c'est normal d'être en colère devant certaines... Après, c'est plutôt comment j'ouvre les vannes, est-ce que je... comment j'exprime. Est-ce que c'est des passions complètement incontrôlées? On voit que Nietzsche, de ce point de vue-là, il met beaucoup l'accent sur la passion. Mais si on met l'accent sur la passion, il risque d'y avoir quelques dégâts derrière. Donc, c'est... Ce qui est intéressant, c'est la manière dont je gère ce sentiment après. Alors, pour la colère, c'est important justement de ne pas perdre... de rester au contact de la réalité, parce que quelquefois, on s'énerve pour rien. Et du coup, justement, pour garder une certaine proportion avec la réalité, et se focaliser non pas tant sur ce qui nous a énervé que sur la manière, la solution la meilleure qu'on pourra trouver pour sortir de la... Alors bien sûr que le voisin, mais il faudra peut-être lui dire, ben, est-ce que vous pouvez faire attention, et puis il y a une gradation, si au bout de plusieurs fois je lui ai dit, il ne réagit pas, ben, bon, peut-être j'aurai une autre démarche, passerait par l'écrit, ou voilà. Mais il y a toute une gradation. Mais du coup, de voir, pas se focaliser sur la chose qui nous énerve, mais sur la solution qu'on va essayer de mettre en place pour réagir. Voilà, alors ça, c'était trois contraires que je voyais par rapport à la... trois contraires de la douceur. Maintenant, quelques facettes de la douceur, parce que la douceur, de fait, pardon, oui, c'est le quatrième. La douceur, le mot même dans les béatitudes est traduit de différentes manières selon les langues, selon les... Alors, tel que j'ai pu le comprendre, il y a deux voies principales pour traduire le mot de douceur, le mot grec employé par saint Matthieu, c'est plus, il y en a un qui insiste plus sur les dispositions intérieures, la douceur, l'humilité, donc c'est plus l'humilité, etc. Et une autre catégorie de traduction qui mettent plutôt sur l'effet de cette humilité à l'égard du prochain, cette douceur à l'égard du prochain, l'affabilité, la douceur, la gentillesse. Voilà. Donc, il y a plusieurs facettes, en tout cas, dans cette douceur. Je voudrais vous parler, donc, de quelques facettes de cette douceur. Et notamment, d'abord, La douceur dans les pensées et les paroles. Je vous ai déjà parlé, je crois, d'autres fois des logismoi. Vous vous rappelez des logismoi? Non? Bon. Alors, je suis heureux de vous en reparler. Les logismoi, c'est un mot grec, hein, qui est L-O-G-I-S-M-O-I. Alors, c'est une translittération parce que c'est un mot grec, hein, mais.
Oh.
C'est, alors, les, en fait, c'est tout simple, hein, c'est un mot pour faire savon, mais c'est les pensées qu'on a à l'esprit.
C'est grec.
Oui, oui, c'est un mot grec. C'est les pensées qu'on a à l'esprit. Vous avez toujours des pensées bienveillantes, je pense. Méfiez-vous, j'ai un scanner qui... Si on pouvait scanner toutes les pensées qu'on a dans... Oh là là! Ça serait horrible. Parce que... Et les, alors, c'est un mot qui a été très utilisé par les pères de l'Église. Par les pères de l'Église, parce que eux, bon, ils allaient au désert, donc ils se disputaient pas trop avec les gens, ils étaient partis au désert. Mais en revanche, du coup... Dans le désert, ils se rendaient davantage conscience et le combat spirituel s'était beaucoup porté par les pères du désert. Il y a des gens, le combat spirituel, ils se demandent ce que ça veut dire. Mais eux, justement, qui étaient plutôt portés sur l'intériorité, puisqu'ils allaient se retirer dans le désert, mais ils étaient plus attentifs à ce qui se passait dans leur tête. Et ils se rendaient compte que ce qui se passait dans leur tête n'était pas toujours très beau. Voilà, ben, c'est tout simplement ça, hein, c'est de repérer déjà dans nos pensées, la douceur dans nos pensées. Hein, on peut avoir des jugements assez cassants. Il y a quelqu'un, alors je ne sais pas où il a tourné, où il a pris ses sources, mais on dit que 75% de nos pensées sont des jugements. Les trois quarts, hein. Alors, mais du coup, je pense qu'on a un travail à faire au niveau de nos pensées, de voir, d'avoir des pensées bienveillantes à l'égard des autres, et non pas des pensées qui tuent, on pourrait dire. Et puis après, les pensées, c'est la parole. Un verset que je suis sûr d'avoir déjà cité, ce que j'aime beaucoup, c'est l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 4, verset 29. « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. » Donc, cette douceur dans les paroles, voilà. Mais... Avant de prononcer la parole, c'est déjà de se rendre compte de la trajectoire de la parole. Quel est le but que je poursuis en disant cette parole? Est-ce que ça sera pour construire, bonne, constructive, bienveillante, constructive? Est-ce qu'elle construira cette parole que je vais dire, déjà cette pensée que j'ai, mais cette parole, est-ce qu'elle va construire ou est-ce qu'elle va détruire? Est-ce que ça sera une parole de douceur, donc dit autrement? Ou est-ce que ça sera une parole cassante pour casser l'autre? Je pense qu'on a tous pas mal de travail à faire sur cette douceur dans les pensées, dans les paroles. Avant même que ça soit dans les gestes, et voilà, on claque une porte, et puis voilà. Mais d'ailleurs, c'est pas uniquement dans les paroles ou les pensées, les paroles, mais après, ça transpire quelquefois dans l'intonation de notre voix, dans l'expression de notre visage. On dit bien qu'il y a des regards qui tuent. Bon, j'ai rien dit, mais. Mais, alors, rien dit verbalement, oui, mais peut-être que j'ai dit quand même quelque chose par mon regard qui tuait. Voilà. Donc, c'est un aspect de la douceur, les pensées, les paroles. Un autre aspect de la douceur, c'est un peu de brick out box que je vous donne, mais par rapport à la patience. La douceur implique de prendre son temps et de prendre de la distance. Benoît XVI, notamment dans son discours à la Ratisbonne, insistait sur l'importance de la raison pour canaliser la violence. Et je pense aussi dans nos familles, dans nos communautés aussi, moi ça m'aide aussi beaucoup d'essayer de réfléchir pour comprendre une situation, pour évacuer une certaine violence. Quand on comprend, quand on essaye de comprendre, quand on est dans cette logique, voilà, calmons-nous, je vais essayer de comprendre d'abord. Mais ça nous aide beaucoup. Mais ça suppose une patience, la patience dans le sens aussi de prendre un peu de recul, de ne pas réagir comme ça de manière impulsive, mais prendre un peu de recul pour... Voilà. Le pape François a des paroles assez belles aussi. Je vous cite Evangelii Gaudium, au numéro 44. Voilà ce qu'il dit. Sans diminuer la valeur de l'idéal évangélique, il faut accompagner avec miséricorde et patience les étapes possibles de croissance des personnes qui se construisent jour après jour. Voilà. Et après, il leur dit, un petit pas au milieu de grandes limites humaines peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d'importantes difficultés. Voilà, il y a des étapes. Il faut, voilà, vous savez bien aussi dans l'éducation, il faut un peu de patience, sinon. Le petit pas qu'on peut demander, on voit très bien, il y a des personnes, on peut leur demander quelque chose d'un peu exigeant, ils les feront, il n'y a pas de souci. D'autres personnes, elles ne peuvent faire qu'un petit pas, mais si c'est déjà un petit pas qui va dans la bonne direction, c'est déjà ça de gagner. Mais donc la patience. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire aussi qu'on est compréhensif. Compréhensif, pas dans le sens d'une tolérance qui ne serait pas très ajustée, où on laisse tout faire, mais dans le sens où on essaie de comprendre. On essaie de comprendre l'autre. Et de prendre en compte aussi sa faiblesse, de prendre en compte sa difficulté aussi. Une autre facette encore de la douceur, c'est en la rapprochant de l'humilité. Alors l'Évangile le rapproche souvent, la douceur de l'humilité, Jésus doux et humble de cœur. Alors il y a même, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, c'est dans Saint Matthieu au chapitre 11, et puis ça a été repris dans une invocation, Jésus doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien, vous pourrez la reprendre, si vous voulez. Dans les Éphésiens, Saint Paul qui dit, en toute humilité et douceur, voilà. Bon, on le voit dans la vie de Moïse, et Moïse, à un certain moment, vous vous rappelez de... sa sœur Myriam et Aaron qui commencent à le critiquer. Du coup, Myriam devient lépreuse, etc. Et du coup, Moïse intercède. Voilà. Ils avaient des paroles assez dures, mais lui réagit plutôt dans la douceur. Saint Bernard montre cette articulation entre l'humilité et la douceur parce que, justement, dans l'humilité, on connaît notre propre misère. Et du coup, On a plus de facilité à être doux vis-à-vis des autres parce qu'on connaît que nous, d'abord, on n'est pas des... Quand on se regarde d'une manière trop favorable, ou, si je puis dire, ben, du coup, peut-être qu'on aura un regard dur vis-à-vis des autres. Vous pensez au passage d'Évangile avec le pharisien et le publicain. C'est assez typique. « Ah, je te rends grâce, je ne suis pas comme ce publicain, etc. » Ben, il ne risque pas d'être très doux vis-à-vis du publicain s'il se voit très sous son meilleur jour et l'autre sous son plus mauvais jour. Voilà. Bon, je saute quelques petites choses, sinon... Un autre binôme de douceur et humilité, mais douceur et tendresse, c'est quelque chose sur lequel le pape François revient aussi. Il parle aussi de la courtoisie, on pourrait associer la courtoisie à la tendresse, une manière aussi d'être, voilà, une attention à l'autre, une délicatesse envers l'autre. Oui, un respect, une attention, voilà. Bon, j'arrive déjà au cinquième point parce que le temps s'écoule. Comment progresser dans la douceur? Là, il ne faut surtout pas que je saute ce point-là. Hein. Mais c'est le fruit d'un combat intérieur. Il ne faut pas imaginer que ça vient venir tout de suite. Alors, c'est un combat aussi humain. Il y a des gens qui sont plus prédisposés que d'autres. Il y en a qui... je me rappelle... À un moment, on avait des soucis avec notre fournisseur de téléphone, donc c'était compliqué, ça n'en finissait pas. Et alors, j'avais été très impressionné par le monsieur qui gérait les litiges chez ce fournisseur de... C'était quelqu'un d'extrêmement zen. C'était presque, au début, au bout de quelques mois où ça traîne et tout ça, on a envie de s'énerver. Et lui restait extrêmement zen pour revenir toujours à l'objectivité des choses. Et c'était très intéressant. Mais au premier abord, c'est presque un peu déconcertant. On a envie d'un punching ball et puis on se défouler un peu. Mais là, non, il fallait qu'il ait une certaine maîtrise de lui-même. Alors, je ne sais pas s'il était chrétien, il ne le disait pas. Mais voilà, en tout cas, ça m'avait beaucoup impressionné. Vous connaissez peut-être un texte du patriarche Athénagoras, hein, qui dit « Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années. Elle a été terrible. Mais maintenant, je suis désarmé. » Alors, il y a tout un texte, je ne vous lis pas en entier. Mais voilà, pour dire que la douceur, ça se fait... C'est pas, ça vient pas comme ça, tombe pas du ciel comme ça. Ça demande d'y travailler. Athénagoras. Hop. Comme Athènes. Voilà. Je sais pas si le verre vous le voyez beaucoup, mais bon. Alors. Comment progresser dans la douceur? Mais peut-être aussi, certainement, en mettant sa confiance en Dieu. Le pape François, dans sa lettre, justement, « Gaudete et exultate hein, », sur la sainteté, il revient de diverses manières. Alors, il parle de cette force intérieure dont on a besoin pour être doux. La première de ses grandes caractéristiques, c'est d'être centré, solidement axé sur Dieu qui aime et qui soutient. Grâce à cette force intérieure, il est possible d'endurer et de supporter les contrariétés, les vicissitudes de la vie et aussi les agressions de la part des autres, leurs infidélités et leurs défauts. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dit saint Paul. Grâce à cette force intérieure, le témoignage de sainteté dans notre monde pressé, changeant et agressif est fait de patience et de constance dans le bien. C'est la fidélité de l'amour, car celui qui s'appuie sur Dieu peut également être fidèle aux frères. Il ne les abandonne pas dans les moments difficiles. Etc. Donc c'est au numéro 112. Au numéro 74, la douceur est une expression de la pauvreté intérieure de celui qui place sa confiance seulement en Dieu. Ou alors, encore au numéro 121, l'attitude de douceur suppose un cœur pacifié par le Christ, libéré de cette agressivité qui jaillit d'un ego démesuré. La même pacification que réalise la grâce nous permet de garder une assurance intérieure et de supporter, de persévérer dans le bien, même en traversant un ravin de ténèbres. Voilà. Donc, mettre sa confiance en Dieu pour pouvoir vivre la douceur. La douceur aussi comme fruit de l'Esprit Saint. Et quand, si vous lisez... Vous vous rappelez les fruits de l'Esprit-Saint, c'est dans saint Paul, au chapitre, les Galates, chapitre 5, versets 22-23. Et dans les fruits de l'Esprit-Saint, il y a la douceur. Donc ça veut... Et le pape François, quand il commentait en 2014 les fruits de l'Esprit-Saint, soulignait qu'il y avait un rapport très étroit entre le don de piété et la douceur. Alors, je ne vais pas détailler là-dessus, mais... Autre manière pour progresser, autre aide pour progresser dans la douceur, c'est contempler la passion de Jésus, contempler le cœur de Jésus. C'est le Père Lamy qui nous en parle. Voilà ce qu'il dit. Contempler la passion de Jésus, contempler le cœur de Jésus. Le divin cœur de Jésus est la source de la charité et du zèle apostolique. La dévotion au Sacré-Cœur décuple les forces de l'âme, la porte à la méditation des souffrances et de la mort de notre Seigneur et la prédispose à supporter généreusement pour l'amour de Dieu et par charité pour les âmes les épreuves qui font de la vie du prêtre missionnaire une passion continuelle. Pour se préparer à la vie apostolique, lire souvent l'Évangile, la Passion et faire le chemin de la croix qui apprend merveilleusement à tout faire et à tout souffrir pour l'amour de Dieu. Hein, donc, la douceur qui implique de supporter des choses difficiles, donc de contempler Jésus qui est notre... Donc, contempler des modèles de douceur. Alors, le modèle par excellence, c'est Jésus, hein, qui est ce que le Père Lamy vient de nous dire. J'aime bien aussi je trouve que le pape Benoît XVI nous a donné vraiment un témoignage de douceur. Ça revient souvent dans les témoignages à propos du pape Benoît XVI, une forme de douceur tranquille. Il y a une jeune fille qui réagissait au moment où il avait renoncé à la charge de pape. Il repart comme il est venu, comme il est resté, doucement, humblement, serviteur jusqu'au bout de l'âme. Dans le silence retentissant de sa présence humble et douce, il irradie l'amour. Voilà. Donc Benoît XVI, apôtre de la douceur du Christ. Alors je vais parler de Jésus, de... Alors, j'aurais pu vous donner des Fioretti de François de Sales, mais bon, je ne les ai pas retrouvés. Alors, la Sainte Vierge aussi, dont nous parle le pape François. Regarder Marie, c'est croire à nouveau dans la force révolutionnaire de la tendresse et de l'affection. En elle, nous voyons que l'humilité et la tendresse ne sont pas des vertus des faibles, mais des forts. Qui ne nécessite pas de maltraiter les autres pour se sentir important. Alors, si vous voulez, je peux conclure par une prière de saint François de Sales, qui était plutôt impulsif, mais qui a prié longtemps pour avoir la douceur et qui l'a eue, puisque c'est un vrai modèle de douceur. Alors, je vous lis sa prière. Ô Seigneur, avec ton aide, je veux m'exercer à la douceur dans les rencontres et les contrariétés quotidiennes. Dès que je m'apercevrai que la colère s'allume en moi, je recueillerai mes forces, non avec violence, mais doucement, et je chercherai à rétablir mon cœur dans la paix. Sachant que je ne peux rien seul, je prendrai soin de t'appeler au secours, comme le firent les apôtres ballottés par la mer en furie. Enseigne-moi à être doux avec tous, même avec ceux qui m'offensent ou me sont opposés, et jusqu'avec moi-même, ne m'accablant pas à cause de mes défauts. Quand je tomberai, malgré mes efforts, je me reprendrai doucement et dirai « Allons, mon pauvre cœur, relevons-nous et quittons cette fosse pour toujours. Recourons à la miséricorde de Dieu, elle nous viendra en aide. Amen. » Alors, est-ce que vous avez des questions ? Oh, je pense que oui. Oh, je pense qu'on peut dire que c'est une sainte colère. Oui, parce que ce que Jésus a fait était saint. Ça nous déconcerte quelquefois un petit peu, mais oui. En tout cas, là, on voit que c'est pas de la mollesse. Hein. C'était juste. C'était proportionné. Alors nous, on est un peu en dehors du contexte, donc on se mesure pas beaucoup, mais oui. Oui. Au moins, ça ne m'arrive jamais. Hein.
Le pardon passe à la terre. Ça pourrait faire une heure et demie aussi de discussion. On peut l'accepter.
Alors, il ne s'agit pas d'éteindre forcément la colère. C'est une très très bonne question. La colère, il ne s'agit pas forcément de mettre le couvercle dessus et puis de... Vous pouvez peut-être avoir un punching ball. Plutôt que de taper dans la personne, vous tapez sur votre punching ball pendant ce temps-là. C'est le père Montbourquette qui, justement dans le cadre du pardon, disait qu'il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à pardonner précisément parce qu'elles ne laissaient pas leur colère aussi s'exprimer. Elles la retournent leur colère vers elles-mêmes. Alors, la colère, il faut l'exprimer. La colère, encore une fois, au point de départ, elle est neutre. Ça montre qu'il y a quelque chose qui nous a blessés. Vous donnez un coup, c'est normal. Mais après, c'est plutôt la canaliser pour qu'elle... elle doit s'exprimer, la colère, mais d'une manière correcte. Pas de manière... on ouvre les vannes et ça part dans tous les sens et ça dévaste tout ce qui est sur la... Il y a des retenues d'eau de temps en temps... Alors si c'est ça, nous, on retient sa colère comme ça, et un beau jour, le barrage cède, et alors ça entraîne tout sur son passage, ça veut dire que ce n'était pas de la douceur. La douceur, c'est canaliser justement pour produire quelque chose de positif, un peu d'électricité peut-être. Quelquefois, on peut tirer vraiment de la colère une force positive pour avancer. Je suis en colère contre les injustices. Alors je peux aller brûler l'Élysée ou tout ça, mais ça avancera à quoi ? Mais en revanche, de cette colère, je peux en faire une force, parce que c'est une force qui peut être positive, et du coup, je ne reste pas inactif vis-à-vis d'une injustice qui me meurtrit, et je prends des moyens, mais des moyens proportionnés, des moyens qui où l'intention est droite aussi, hein, pour prendre les trois... J'aime bien ces trois critères de la juste colère. On voit, mais oui, exprimons la colère, mais d'une manière proportionnée. Mais je pense que c'est quelque chose qui nous est donné. Il ne faut pas le mettre non plus sous le couvercle et puis un jour ça explose. C'est...
Oui. Quelque chose qui dit
Tout à fait. Oui. Il faut la domestiquer un petit peu, mais. Oui, alors ça peut montrer plusieurs choses. C'est comme le voyant d'une voiture, ça clignote. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément que je m'arrête tout de suite. Et ça dépend si c'est vert, orange, rouge, voilà, le clignotant. Mais ça me donne une information, la colère. Après, qu'est-ce que j'en fais? Et là, mon intelligence, elle doit me guider pour savoir ce que j'en fais de ce sentiment, qui, voilà, pour que ça produise un bien au bout du compte. Oui, et la colère, il y a des colères qui ont été très bénéfiques dans l'histoire de la colère contre la pauvreté, on pourrait dire, bah, du coup, de s'engager pour ou contre les abus, contre les abus. Oui, oui. Donc, pardon. Oui, alors, je pense qu'à certains moments, mais après, justement, il faut la domestiquer quand même un petit peu pour que, voilà. Et le grand danger, c'est justement de laisser un libre cours à la colère, et du coup, elle fait beaucoup plus de dégâts qu'on voit bien que quand on gère pas sa colère, il faut la gérer.